Bienvenue au balado, le balado où on parle de nos ados, ces petits trésors d'êtres humains en pleine quête d'identité qui tentent, avec les moyens du bord, de faire leur place dans le monde. Pour cette troisième saison, les étudiants et étudiantes de troisième année du baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé de l'Université de Montréal s'emparent du micro afin de vous transporter dans le monde des ados. En leur compagnie, vous, les nombreux auditeurs et auditrices du balado, en apprendrez davantage sur les enjeux actuels et à venir qui touchent nos adolescents. Alors, attachez votre calotte cielée avec de la broche, car ce ne sont pas les sujets d'intérêt qui manquent cette saison.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans le cadre du cours de PPA 3310, l'adolescent et l'école comme milieu de vie, mon coéquipier Quentin Lord Quintric et moi-même Jules Morin allons vous présenter un balado sur les adolescents. Nous avons tous été, à un moment donné de notre vie, un adolescent qui était en train de vivre plein d'émotions, qui était en train de travailler et de chercher des relations amoureuses, amicales, un peu partout. Nous avons envie de travailler sur les relations entre les adolescents et les parents et leurs enjeux. Donc maintenant, nous allons parler de ça avec la question centrale qui va être posée par Quentin.
Bon, alors, ben, merci Jules. Je continue en posant notre question. Alors, on s'intéresse plutôt à quelle est la place des adolescents et des parents au sein de la balance entre la dépendance au cadre familial et leur réclamation d'autonomie et d'individualité. Cette question a été modifiée quelque peu de notre précédente, mais elle cible plus spécifiquement notre sujet. Celle-ci est intéressante pour nous puisque, en tant qu'adolescent avant, bien, on avait peut-être de la difficulté à comprendre l'importance de nos parents et des parents des autres dans nos vies, plus précisément à l'adolescence. Et de plus, en tant que possible futur parent et futur enseignant, on peut se demander la question de comment accompagner le plus efficacement et le plus fluidement les adolescents sous notre responsabilité.
Donc maintenant, je vais vous parler du lexique. Je vais vous définir deux sujets qui sont très importants dans notre balado. Donc le premier est la dépendance au cadre familial. La dépendance se caractérise par un état ou une situation de quelqu'un qui n'a pas son autonomie par rapport, dans le cas présent, au cadre familial. Donc, comme on va en parler plus tard, la notion de dépendance pourra se révéler comme positive ou négative, dépendamment des cas. Ma deuxième définition sera sur la réclamation d'autonomie. Donc, l'autonomie représente la capacité de quelqu'un à ne pas dépendre d'autrui. Ici, ça va surtout être par rapport au cadre familial. Ce mot-clé prône sur l'individualité. C'est cette autonomie que l'adolescent typique réclame autant, surtout avec ses parents.
Merci Jules d'avoir mis des points sur des i. Maintenant, on se rappelle de la question, c'était véritablement quelle est la place des adolescents et des parents au sein de la balance entre la dépendance au cadre familial et leur réclamation d'autonomie et d'individualité. Mais cette question est lourdement entourée par des dualités, des dualités de domaines. On va les voir plus en détail prochainement dans le développement, mais là, je sais qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire. Comment trouver un équilibre entre le cadre familial et l'autonomie donnée à l'adolescent? Malheureusement, il n'y a pas de réponse claire puisque chacune d'elles, la réponse pourrait dépendre. Mais on va essayer de se rapprocher de la solution. C'est maintenant le moment de rentrer dans le vif du sujet. On regarde le premier côté de notre pièce, la dépendance au cadre familial. En effet, les adolescents évoluent dans un contexte de dépendance au cadre familial. vous et moi, la majorité d'entre nous, les parents ont été comme des pourvoyeurs pour nous. Ils répondaient à nos besoins primordiaux. De plus, ils répondaient et donnaient une protection mentale et physique. Cette protection pouvait même se transmettre en dépendance émotionnelle. Donc, les parents étaient comme des protecteurs pour leurs enfants et futurs adolescents. Parlant de besoins primordiaux, on peut même aborder le sujet de la pyramide de Maslow. Si vous êtes intéressé, vous pourrez voir l'entièreté de cette pyramide, mais je ne vais que nommer la première phase puisqu'il y en a cinq. On parle un peu des besoins physiologiques, la respiration, la nourriture, l'eau et le sommeil pour n'en nommer quelques-uns. En effet, ces besoins doivent être répondus, sinon il ne pourrait pas y avoir de vie. On continue même sur ces sujets puisque les adolescents évoluent dans un contexte familial, mais les parents, on pourrait les catégoriser par des styles d'encadrement parentaux. Ceux-ci jouent sur le développement des adolescents et on peut en voir lesquels sont les meilleurs, lesquels ont plus d'inconvénients. En effet, ils sont tous différents. On commence avec le parent démocratique, le parent permissif, le parent autoritaire, le parent surprotecteur, le parent perfectionniste et le parent désengagé. Comme on l'a dit, chacun d'eux opère différemment l'un de l'autre. Mais ces styles parentaux, et de même pour les parents, doivent s'adapter à un adolescent qui évolue constamment. En effet, la période d'adolescence est comme une période de transition pour eux. Ils sont en constant changement et on pourrait même qualifier cette période d'une des périodes avec les plus grands changements de leur vie. Ces adolescents, ils sont en constant changement. En effet, il y a une diminution du temps passé avec la famille au profit du temps passé avec les amis. Heureusement, ce changement dans leur distribution de temps n'affecte pas leur affection envers les parents. Ceux-ci sont toujours vus comme chaleureux et soutenants. Dans cette relation, il n'y a pas que le temps qui change, mais surtout le système hiérarchique. Les parents et les ados commencent à adopter un plan hiérarchique d'égo à égo. En effet, c'est très important puisque ils progressent vers une dépendance au cadre familial qui diminue.
Donc, merci Quentin. Maintenant, je vais pouvoir parler de l'autre côté de la pièce. Donc, la réclamation d'autonomie et d'individualité de l'adolescent. Donc, pour commencer, je vais parler de la quête de l'autonomie. Elle se fait en trois étapes. Donc, il y a l'autonomie émotionnelle. Pour gagner son autonomie émotionnelle, l'adolescent va devoir changer sa vision sur son parent, sur ses parents. Donc, à la base, c'est des idoles. Mais rendu à l'adolescence, il va changer sa vision et ce ne seront plus des idoles. Ça va être seulement des êtres humains, comme tous les autres êtres humains au monde. Ensuite, il va devoir garder ses secrets de ses parents. Donc, il va pouvoir parler avec ses amis de ses secrets, mais il ne va plus parler de ses secrets avec ses amis. Tout ça va créer justement une autonomie émotionnelle. Donc, l'enfant va être capable plus facilement de gérer ses émotions par lui-même, il va pouvoir les contrôler et ainsi de suite. Ensuite, il y a l'autonomie comportementale. Donc ça, c'est que l'adolescent fait ses choix en assumant les conséquences de ses choix, mais sans la supervision des parents ou des adultes. Mais dans ce cas-là, on va plus parler des parents, vu que c'est eux qui sont souvent là quand les adolescents font des décisions. Ensuite, il y a l'autonomie idéologique. Donc ça, c'est par rapport aux valeurs de l'adolescent. Donc tout ce qui est le bien, le mal, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime pas faire. Souvent, à la base, c'est les parents qui vont essayer de guider l'enfant, mais à l'adolescence, ça va être vraiment l'adolescent qui va choisir ses valeurs par rapport aux expériences qu'il a fait en explorant tout ce qu'il peut faire dans la vie. Maintenant, je vais vous parler du contexte familial et comment l'adolescent va en sortir. Donc, premièrement, l'importance des amis dans l'adolescent est vraiment, vraiment importante, surtout quand on sort les parents du contexte. Donc, bien sûr, ils vont être très influents par rapport à l'adolescent. Ces influences peuvent être positive et négative. Donc, négative, ça peut être, admettons, mettre de la pression sur l'adolescent pour qu'il boive de l'alcool. Ah, t'as pas bu de l'alcool, t'es poche, non, 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 ce genre de choses-là. Ça, c'est une mauvaise influence. Une bonne influence, ça peut être, admettons, ah, viens, on va jouer au soccer. Donc, ils vont jouer au soccer et c'est bien de bouger. Ensuite, comme j'en ai parlé tantôt, l'adolescent a besoin de garder ses secrets par rapport aux parents. Et pour ce faire, il va en parler à ses amis. Donc, ses amis deviennent une source de sécurité et il va essayer de faire confiance à d'autres êtres humains que ses parents. Ensuite, on va parler de la quête d'intérêt et d'identité. Donc, c'est très, très important pour l'adolescent d'essayer de faire des choix et d'avoir des valeurs qui lui sont propres. Donc, bien sûr que l'influence des parents est très importante vu que c'est avec eux qu'il a vécu le plus d'expériences dans sa vie. Mais il va devoir solidifier certaines valeurs qui lui sont propres et des convictions dans la vie qui lui sont propres et non celles de ses parents. Bien sûr, la quête identitaire ne se finit pas à l'adolescence, mais elle se poursuit tout au long de la vie.
Pour continuer dans ce champ d'idées, on peut faire le lien avec un film suggéré par Marc-André Duchesneau, notre cher enseignant. Le guide de la famille parfaite par Ricardo Trogi en 2021. On retrouve une famille urbaine assez commune. Pour Rose, l'héroïne de cette histoire, il y a son père et sa belle-mère surprotecteurs, sa mère qui est désengagée, et un petit frère en plein développement et qui a de la difficulté à la maternelle. On visionne cette performance où justement l'attente des résultats et performances de Rose est très élevée pour son père, notamment la thématique du film. On évoque beaucoup aussi la dualité entre Rose, une adolescente qui est perçue comme un enfant par son père Martin. Celui-ci planifie toutes ses activités et engage d'innombrables tuteurs et d'autres choses très envahissantes, ou comme une adulte. Par sa mère Caroline, qui l'amène dans des parties pour plus âgés et l'encourage dans son indépendance malgré qu'elle soit peu présente. Selon Rose, tout cela va trop vite ou trop lentement. On retrouve aussi une dualité entre un style parental trop envahissant et un style parental désengagé. Martin, son père, dicte tous les aspects de sa vie et est très contrôlant face à Rose et a beaucoup d'attentes pour elle, ce qui cause une grande pression pour celle-ci, tandis que sa mère est absente pour la majeure partie de sa vie. Il y a aussi une dualité entre rester dans le cadre familial et en sortir. Rose aime bien sa famille et le confort que le cadre familial apporte, mais veut passer plus de temps avec ses amis et s'épanouir dans ses expériences et explorations de vie.
Donc, merci Quentin. Maintenant, je vais vous parler de la vie des adolescents. Donc, on peut voir dans le film que c'est très confus pour eux puisque leur vie est parsemée de questions de position. Comme on peut le voir justement dans le film, la petite Rose qui est l'adolescente adore sa mère pendant son enfance. Elle la trouve cool, indépendante. Mais à l'adolescence, elle trouve que sa mère, en fait, ne s'occupe pas d'elle et c'est pour ça qu'elle la trouvait cool et indépendante. Mais maintenant, elle observe que, elle est différente. Puis c'est justement ça, donc l'image pour Rose de ses parents change à l'adolescence. Puis inversement, les parents de Rose observent aussi que Rose, elle évolue à une vitesse hallucinante. On peut aussi observer que les adolescents cherchent leur place et son juste milieu dans la société. Donc, ils sont toujours en exploration, ils savent pas exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire, où ils doivent se situer dans la société. Et les parents, eux, ils cherchent à interagir et à guider leur enfant dans tout ça, mais c'est souvent très difficile, soit ils sont trop encadrant comme le père de Rose, ou ils sont trop laissés aller comme la mère de Rose qui pense que Rose est déjà une adulte, mais elle est dans un entre-deux.
Alors, après toute cette notion de confusion, on pourrait même se demander qu'est-ce qu'on peut faire? Comment peut-on trouver une solution? Eh bien, il y a plusieurs ressources qui peuvent nous aider. Malheureusement, chaque situation familiale est différente de la prochaine. La réponse dépend beaucoup de notre interprétation personnelle et du contexte dans lequel la situation familiale prend place. Des livres comme L'univers social des adolescents ou même les théories psychosociales d'Erikson traitent justement d'une solution et elles peuvent nous approcher de la vérité. Les théories psychosociales abordent la notion de quête identitaire, tandis que l'univers social des adolescents traite plutôt de comment ceux-ci agissent dans un contexte familial. Puisqu'il est difficile de trouver un juste milieu, notamment dans la relation adolescent-parent, il y a souvent la notion de création, de tension et de conflit qui se crée au sein de la famille. En effet, le domaine des conflits entre parents adolescents est un domaine très très important. Certains le liraient même à la crise adolescente. Plusieurs chercheurs considèrent le conflit parent-adolescent un peu comme normal. La plupart des ados disent être bien dans leur famille et les conflits seraient normaux puisque c'est souvent une lutte de territoire pour des règles conventionnelles. Ça peut être par exemple la musique trop forte, la présence des amis au sein de la famille, les heures de rentrée et de sortie. Trois positions des chercheurs sont même expliquées. Certains diraient que le conflit parent-ado est une conséquence d'un processus de l'adolescence, donc les ados qui entrent en conflit avec les parents seraient normaux. Certains disent que le conflit parent-ado est une difficulté des ados d'assumer leur croissance et une automisation des parents qui démontrent une difficulté à surmonter la crise du milieu de vie ou la crise parentale. Encore, les conflits parents-ados seraient des conflits et conduites déviantes seraient liés. Donc, des attitudes pathologiques parentales seraient peut-être la raison de leurs agissements et habitudes chez les ados. Ces trois théories ne sont pas exclusives, c'est-à-dire que plusieurs d'entre elles peuvent être vraies. Maintenant, on va voir qu'est-ce que Jules pourrait nous en dire dans la notion de conflit.
Parfait, Quentin. Donc maintenant, je vais parler de la notion de quête du parfait jamais atteinte. Donc en effet, les adolescents trouvent que leurs parents sont soit trop ou pas assez sévères, trop inaccessibles ou trop envahissants. Donc c'est toujours de l'insatisfaction des adolescents face à leurs parents. Donc les parents ne peuvent jamais être parfaits selon les adolescents. Donc, comme je l'ai dit tantôt, les parents ne sont plus les idoles des adolescents, contrairement à l'enfance. Aussi, vers la fin de l'adolescence, les relations sont plus égales à égales et moins négatives, car les adolescents comprennent de plus en plus les parents, vu qu'ils deviennent de plus en plus adultes. Et vu qu'ils sont beaucoup, beaucoup moins dépendants, les parents ont un peu moins d'impact sur les adolescents. Et c'est sûrement pour ça que, ils trouvent qu'il y a plus d'égalité entre les deux et qu'il y a moins de chicanes. Après avoir vu tous ces points sur les relations entre les adolescents et les parents, lors de l'adolescence, nous pouvons donner des pistes de solutions pour aider justement les adolescents et les parents en proposant certaines activités aux enseignants pour qu'ils les donnent aux adolescents et aux enseignants. Donc, nous avons proposé de créer une séance avec les parents, donc après les cours. Donc, une séance, ça peut être une fois par année ou une fois par session au secondaire. Donc, qui pourrait aider les parents à mieux comprendre les adolescents et comprendre leurs besoins. Ainsi, pendant cette séance, nous pourrions donner plusieurs sites et numéros de téléphone qui peuvent aider les parents à mieux comprendre les adolescents, ainsi que juste aider les adolescents. Donc, les parents pourront donner ces numéros à leurs adolescents pour qu'ils puissent les appeler ou aller sur leur site Internet. Nous avons énuméré tel jeune, Genèse J'écoute, Ligne Parents, Éducation Coup de fil, tous ces sites et numéros de téléphone ont soit des intervenants qui peuvent aider directement les adolescents ou les parents, ainsi que des sites Internet qui parlent justement des problèmes des adolescents qui arrivent souvent lors du secondaire, telle l'addiction au jeu d'argent ou l'addiction à l'alcool, tous ces sujets-là variés, ainsi que certains ateliers que peuvent faire les parents avec leurs enfants.
Après cette recherche, c'est maintenant le moment de répondre à notre question. Je la rappelle, quelle est la place des adolescents et des parents au sein de la balance entre la dépendance au cadre familial et leur réclamation d'autonomie et d'individualité? En ce qui concerne l'adolescent, il a besoin que son cadre familial assure sa sécurité, qu'il soit écouté, qu'il reçoive de l'attention et que ses besoins primordiaux soient répondus. Pour son autonomie et individualité, il a besoin d'un espace pour exprimer son autonomie et sortir du cadre familial. Même, on pourrait rappeler la notion de secret, qu'il doit avoir une vie en dehors de sa vie familiale. Il doit aussi avoir le temps de faire une recherche de soi-même et formuler ses propres valeurs et perceptions. Pour les parents, d'un autre côté, ils doivent guider leur enfant dans leur choix, je le mentionne bien, leur choix, sans pour autant décider pour eux. Ils doivent s'adapter à un individu qui grandit et change avec le temps, jusqu'à voler de ses propres ailes. Tout cela dépend quand même du contexte et des individus. D'ailleurs, la patience et l'écoute de chacun contribuent fortement à favoriser un environnement propice aux relations familiales positives.
Donc nous, on s'est demandé, après avoir vu tous ces points, avoir conclu, on s'est demandé si un enfant, un adolescent adopté aurait vécu environ la même chose, si c'est différent pour une famille d'immigrants ou une famille où les parents sont divorcés. Ou si on voulait, on s'est demandé, on s'est posé la question si ça allait varier. Si l'adolescent avait des frères, des sœurs. Nous, on s'est sûrement dit que l'aîné de la famille allait être traité différemment que le petit dernier. Donc, avec ça, ça va être tout pour moi et Quentin. Donc, on se dit merci beaucoup et à la prochaine!